Bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. Nous sommes déjà le 26 février 2018. Une température des plus agréables au cours des prochains jours. C'est ce qui nous attend, alors à vous d'en profiter. Hein? Mon nom est Claude Blas, en place pour vous offrir une émission axée sur la lecture des différents articles de magazines et de blogs. Et pour m'aider dans ma quête, bien sûr, on va tout de suite rejoindre Franceline Nieuviard. Comment allez-vous ce matin?
Oui, ça va bien, ça va bien. J'espère qu'il en est de même pour vous.
Oui, très bien, merci.
Bien, donc ce matin, mes deux sujets, le premier est tiré de la revue Le Bel Âge et entre un peu dans les domaines psycho puisqu'il s'intitule « Et si on se pardonnait enfin ?» Et le deuxième est tiré de l'itinéraire, du journal L'Itinéraire, et il s'intitule « Connecté ou déconnecté ». C'est l'éditorial de la rédactrice en chef du journal L'Itinéraire qui, le 15 février 2018, a fait un dossier sur la cyberdépendance.
Ah, d'accord.
Alors je vous lirai quelques passages.
Merci beaucoup, Franceline. Et on va retrouver naturellement, comme tous les lundis, Roger Roy.
Oui, bonjour.
Ça
bonjour.
Va bien?
Oui, très bien.
Passez un bon week-end.
Ah oui.
Parfait.
Un peu venteux ce matin, mais à part ça, ça va bien. Non, alors aujourd'hui, je vous lis deux textes. Je vous lis des textes de deux hommes qui me semblent sages, mais est-ce qu'ils seront écoutés? Ça, c'est une autre question. Jean Bédard nous dit que nous sommes tous pauvres en raison de ce que nous faisons à la terre, à la nature. Mm-hmm. Et Charles Grandmont, lui, s'en prend au pouvoir des réseaux sociaux qu'il n'aime plus.
Ah!
Qu'il l'eût cru.
Ah, quand même! Et de mon côté, je vous parlerai de deux articles que j'ai retrouvés, un sur Passeport Santé, qui nous donne 5 conseils pour prendre soin de son couple au quotidien, imaginez. Vous avez hâte d'entendre ça? Oui, peut-être. Et les radiographies dentaires, est-ce qu'on prend trop de rayons X avec nos fameux tests?
Je vais chez le dentiste demain. Écoutez ça attentivement.
Alors, je vais le lire un peu plus tard. On vous revient tout de suite avec Franceline. Alors, Franceline, comme premier article, vous nous parlez de...
Et si on se pardonnait enfin? Difficile de nous pardonner nos propres fautes, on le pense souvent. Hein. Alors voilà quelques conseils d'experts pour apprendre à faire preuve d'indulgence envers soi et tirer leçon de nos erreurs. Et donc, c'est écrit par Linda Priestley dans la revue Le Bel Âge de février 2018. On a tous sur la conscience un geste commis ou des paroles prononcées sous le coup de l'émotion. Parler d'un ton bête à son vieux parent ou son petit enfant, filer sans laisser nos coordonnées sur le pare-brise de la voiture qu'on vient d'accrocher, médire d'un collègue, voilà quelques exemples. Pour José, c'est le remords de s'emporter pour des peccadilles qui la poursuit. « Je ne parviens pas toujours à maîtriser mes élans de colère », avoue-t-elle. Avoir des moments dans la vie où l'on ne se sent pas trop fier de nous, c'est normal. Là où le bât blesse, c'est quand on n'arrive pas à se pardonner nos torts. Cette rancune envers nous-mêmes, parfois inconsciente, s'accumule, risquant de nous empoisonner l'existence et éventuellement celle des autres, affirme Robert Enright, fondateur du International Forgiveness Institute aux États-Unis et pionnier dans le domaine de la recherche scientifique sur le pardon. Se pardonner est plus difficile que d'excuser ceux qui nous ont fait mal, renchérit Diane Gagnon, coach et conférencière. On est plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres. On gagnerait pourtant à mettre en pratique le pardon le plus souvent possible, soutient Robert Enright. De nombreuses études rapportent ses bienfaits pour le bien-être mental et physique. Bon pour nous, bon pour les autres, ajoute-t-il, puisque l'auto-pardon a des retombées positives à effet boule de neige. Plus on l'adopte, plus on contribue à rendre le monde meilleur. Alors que le manque d'auto-indulgence, au contraire, peut mener à la dépression ou l'anxiété. Bref, apprenons à être miséricordieux envers nous-mêmes, on nous le pardonnera bien. Qu'on puisse tous se pardonner semble dur à avaler. Pour Georges, 61 ans, les vieux péchés sont impossibles à oublier. Pendant des années, j'ai été trop sévère et peu affectueux envers mes 3 enfants. Je le regrette amèrement aujourd'hui, nos relations étant houleuses. Mais je ne sais pas comment réparer mes torts et je m'en veux beaucoup. Si on a menti, abusé d'une personne, volé ou pire... On risque de croire que nos paroles ou nos actions demeurent inexcusables et qu'on ne mérite aucune clémence. Et si l'on est croyant, on demeure souvent convaincu que seule une autorité suprême pourra nous accorder le pardon, ajoute Robert Enright. Or, le pardon est une vertu qu'on peut tous adopter, surtout si on est prêt à le faire et qu'on le souhaite du fond du cœur. Pourvu qu'on franchisse d'abord trois étapes essentielles, ce que j'appelle, dit-il, les trois R du pardon, le remords, le repentir et la réparation. Pour y arriver, on gagne d'abord à reconnaître qu'on a eu tort. Une entreprise qui peut s'avérer toutefois ardue. Pour toutes sortes de raisons, orgueil, frustration, blessure du passé ou absence de remise en question, on ignore parfois le mal qu'on a fait, dit Robert Enright. D'où l'avantage d'apprendre à se pardonner. Plus on le fait, mieux on est prêt à admettre nos fautes et mieux on est porté à blâmer et moins on est porté à blâmer les autres. Après l'examen de conscience viennent bien sûr les remords. La culpabilité est le plus grand obstacle à notre épanouissement, affirme Diane Gagnon. Comment s'en défaire ? Déjà, rien que de se convaincre qu'on ne peut changer le passé, seulement le présent, nous encourage à regarder vers l'avant et à trouver des façons de réparer nos fautes, répond Robert Enright. Jeter un regard compréhensif et indulgent sur nos agissements est aussi une bonne façon d'apprendre à nous accepter et éventuellement à nous pardonner. Après tout, on est tous humains. Attention toutefois à nous mettre hors de cause sans réflexion aucune. Une ennemie qui s'exclame « Oh, que j'ai été vilaine, mais je me pardonne », après avoir cassé du sucre sur le dos d'une autre personne, ça ne compte pas. S'en vouloir à mort ne donne strictement rien, surtout si on tend à répéter la faute. « Combien de fois ai-je explosé pour ensuite m'en mordre les doigts ?» raconte José. « Une fois la poussière retombée, je regrette vivement mon impétuosité et je me promets de ne pas répéter l'expérience. Mais hélas, rien n'y fait et je m'enlise dans la culpabilité. » Faut-il dans ce cas abandonner la lutte et se résigner à vivre sur son petit nuage noir en pestant contre notre sale caractère ? On a le droit à l'erreur, à la bêtise occasionnelle et aux mauvaises décisions, soutient Robert Enright. Ce qui compte, ce sont les gestes qu'on choisit de poser par la suite. Regretter une faute qui, à nos yeux, est répréhensible et se jurer le cas échéant de ne pas la répéter montre qu'on assume nos torts et qu'on souhaite les réparer. Pour apaiser nos démons intérieurs, l'amour est champion, assure le psychologue. Faire amende honorable auprès de ceux qu'on a blessés, puis mettre tous les efforts pour réparer notre faute, prouve qu'on tient à eux et qu'on désire s'améliorer. Même s'ils ne sont pas prêts à recevoir nos excuses, le temps aidant, ils finissent par voir que nos actions sont motivées par l'amour. Enfin, réparer ces dégâts, on a fauté, on s'est rendu compte, on s'est excusé, maintenant on se met au travail. Comme Georges qui a décidé de tendre la perche à ses enfants en s'excusant pour son attitude distante. « Je leur ai dit que je les aimais et que j'allais m'efforcer d'être un père et un grand-père plus présent. Si on souhaite changer un comportement nuisible comme jouer de manière compulsive, boire, fumer, abuser des autres ou se fâcher tout rouge pour un rien comme dans le cas de José, on peut recourir à une aide professionnelle sous forme de consultation ou thérapie avec un psychologue ou un psychothérapeute. » On peut lire sur le sujet qui nous préoccupe, assister à des conférences, participer à des ateliers ou des groupes de soutien. Il peut s'agir aussi de changer certaines habitudes de vie, comme se coucher plus tôt, s'alimenter convenablement ou faire de l'exercice. Cela nous aide à nous sentir mieux dans notre corps, ce qui favorise notre état d'esprit, observe Robert Enright. Et enfin, se pardonner l'impardonnable. L'autopardon est-il possible même si notre crime est condamnable ? Point d'interrogation. L'exemple d'un garçon ayant tué son beau-père parce que celui-ci battait sa femme nous dit que oui, avance Robert Enright. Après avoir purgé une peine de 15 ans de prison, celui-ci en est ressorti changé, regrettant son passé mais aussi prêt à faire face à l'avenir en créant un centre d'aide à la réinsertion sociale pour les ex-détenus. Cet homme dira sans doute qu'il n'est pas prêt à se pardonner, mais son projet en cours montre qu'il souhaite se réhabiliter. L'autopardon n'est pas une course, je lui souhaite d'y parvenir éventuellement. En attendant, ses gestes, guidés par l'amour, apportent un grand bien dans sa communauté et qui sait, sauront peut-être un jour apaiser sa conscience. Alors voilà, un petit travail à faire peut-être pour chacun d'entre nous et si on se pardonnait enfin.
Mais pas toujours facile quand même.
Ben non.
Il faut quand même bien se connaître pour se pardonner
absolument.
Quand même.
Mais c'est départ. Tout un travail de toute une vie.
Ok, petite pause. On va rejoindre Roger tout de suite après. À Alors, Roger, je n'aime plus.
Je n'aime plus. Je pense qu'il a déjà aimé parce qu'il dit « je n'aime plus ».
Ah, voilà.
Ça se peut fort bien.
Bonne déduction.
C'est Charles Grandmont qui signe l'éditorial de l'actualité du mois de mars. Si vous êtes un adulte nord-américain normalement constitué, vous passez maintenant le dixième de votre temps, les yeux rivés sur votre téléphone intelligent. L'équivalent de plus d'un mois par année, sans arrêt. Facebook, Apple, Google et leurs pairs ont réussi à aspirer le maximum d'heures de nos vies sans compte à rendre ou si peu sur les façons dont ils tirent les ficelles en coulisses pour déterminer ce que l'on voit et influencer ce que l'on aime, ce que l'on achète, pour qui l'on vote. Tout ce temps qu'on leur consacre leur permet d'amasser des océans de données sur nos préférences et nos comportements que ces entreprises exploitent et revendent ensuite pour leur plus grand profit. Et plus elles possèdent de données sur nous, plus elles peuvent peaufiner leur stratégie pour accaparer notre attention. Cette roue tourne à une vitesse affolante et des voix de plus en plus fortes réclament qu'on y mette un frein. Il faut vivre dans une caverne, sans accès à Internet, pour ne pas remarquer les effets secondaires de cette concentration de pouvoir. Pour ne donner qu'un exemple, intéressé, j'en conviens, les médias s'affaiblissent parce que leurs revenus publicitaires sont siphonnés par ces nouveaux monopoles. Plus de 40% des emplois dans la presse écrite ont disparu au Québec en 10 ans, ce qui réduit la diversité et la profondeur du paysage médiatique. On doit s'adapter, bien sûr, mais il faut reconnaître que les dés sont pipés et la démocratie menacée. Des campagnes de diffusion d'informations falsifiées ont soufflé sur les braises du Brexit et contribué à redessiner les frontières de l'Europe. Elles ont joué en faveur de l'élection de Donald Trump aux États-Unis et leur pouvoir de division et de polarisation ne semble pas près de faiblir. Jusqu'ici, les maîtres de la Silicon Valley s'en sont lavé les mains et continuent de faire tout ce qu'ils peuvent pour se placer au-dessus des lois. Pas question pour eux d'assumer la responsabilité des contenus qu'ils publient. Pas question de mettre fin aux stratégies d'évitement fiscal qui font perdre des milliards aux États. Tant pis pour les détaillants locaux qui doivent faire face à une concurrence déloyale dans le commerce électronique. Vous êtes de ceux qui s'inquiètent de l'avenir de la culture québécoise qui ne peut ni se financer, ni se faire voir décemment sur Netflix ou Spotify. Vous pouvez toujours leur envoyer un courriel pour vous plaindre. Oui. La plupart des gouvernements réagissent timidement. À leur défense, la rapidité avec laquelle ces changements surviennent est stupéfiante. Même le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, avoue que les États n'ont pas les ressources pour s'adapter assez rapidement. À Ottawa, Justin Trudeau s'est pour sa part enfermé dans une logique tordue, en refusant d'obliger Netflix à percevoir la taxe fédérale sur ses abonnements au Canada. Le premier ministre du Canada aurait tout intérêt à s'inspirer de Margaret Vestager, la courageuse commissaire à la concurrence de l'Union européenne, qui a imposé des amendes représentant des milliards de dollars à Apple et à Google pour leurs pratiques fiscales et commerciales déloyales, ou à prendre exemple sur le président de la France, Emmanuel Macron, dont le gouvernement veut limiter la propagation des fake news, ou sur la chancelière allemande, Angela Merkel, qui a fait adopter une loi pour forcer le retrait rapide de contenus à caractère haineux. Aucune de ces initiatives ne parviendra à elle seule à rétablir un rapport de force plus équitable entre les géants de la techno et les sociétés qui sont devenues leurs laboratoires à grande échelle. Mais elles ont le mérite de tenter de trouver des réponses, même imparfaites, à l'un des plus grands enjeux de notre époque. Et le citoyen, lui, un truc simple pour commencer, désactivons les mille et une notifications de notre téléphone intelligent, question de regagner un peu de souveraineté sur nous-mêmes, sur notre temps. Exemple en petit PS, c'est pas dans cet éditorial de Charles Grandmont, mais les ravages d'Instagram. Le Horseshoe Bend, un canyon en forme de fer à cheval creusé par le fleuve Colorado dans le roc de l'Arizona, est menacé par Instagram. Les visiteurs de cette merveille naturelle sont nombreux à publier leurs clichés par l'intermédiaire de ce réseau social, ce qui attire encore plus de touristes. En quelques années, l'affluence est passée de 1000 personnes par année à plus d'un million. Pour répondre à cet essor de popularité, les autorités du parc où se situe le méandre n'ont eu d'autre choix que de faire construire un pavillon d'accueil, des garde-fous, un sentier plus praticable et un immense stationnement pouvant recevoir les autocars de voyageurs, ce qui a dénaturé ce site naturel. Il ne s'agit pas d'un cas unique. En 2012, un utilisateur d'Instagram a dévoilé l'emplacement du pont ferroviaire abandonné Vance Creek dans l'État de Washington. Les visiteurs, ainsi que leurs déchets, leurs graffitis et l'incendie de forêt qu'ils ont allumé dans leur sillage, ont poussé l'entreprise propriétaire du terrain à démolir partiellement le pont en 2016 afin d'empêcher les gens de s'y aventurer. Heureusement, il y a une lueur d'espoir au Québec. La CEPAC ne relève aucun phénomène semblable, même si de nombreuses photos de nos parcs se retrouvent sur les réseaux sociaux.
Quand même assez inquiétant. Hein?
Inquiétant. Hey, de passer de, combien de 1 000 touristes par année à 1 million?
Quand même. Eh bien, merci, Roger.
C'est la force de, bon, c'est la force de ces... Hein?
Oui, tout à fait.
De ces réseaux-là.
Les réseaux sociaux. Voilà. On va s'y faire, apparemment. On va s'adapter. On s'en va à la pause musicale et tout de suite après, je vous parle de... Je vous donne, en fait, 5 conseils pour prendre soin de votre coupe au quotidien.
Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour.
Tiré de son album Clandestino, c'était Manu Chao et la pièce Je ne t'aime plus.
Merci beaucoup. Alors, article que j'ai trouvé sur le site passeportsanté.net qui nous parle, qui nous donne en fait 5 conseils pour prendre soin de son couple au quotidien. Et on écrit ce qui suit. Pour faire perdurer son couple, il faut prendre soin de l'autre, sans s'oublier. Il ne faut donc pas confondre générosité et sacrifice, don et manipulation. Voici quelques pistes pour trouver la juste distance. La routine, l'aléa du désir, les conflits. Une relation qui dure n'est pas un long fleuve tranquille et elle se cultive au jour le jour. Comme prendre soin de l'autre, de son couple? Comment l'aimer pour faire durer l'amour? Eh bien, voici quelques conseils pour vous aider. Premier conseil, savoir communiquer. En parlant, tout se résout souvent plus facilement, alors que si on retient doute et colère, tout va faire que s'amplifier. Et à la manière d'une cocotte minute, il se pourrait bien que les rancœurs accumulées nous fassent exploser. Plutôt que s'énerver et accabler l'autre de reproches disproportionnés, il est préférable de remarquer les choses calmement, avec diplomatie et pédagogie. La communication est le ciment du couple. Parfois, la routine dans le couple fait perdre tous les repères. Il est donc utile de faire une mise au point sur une situation. Chacun devra savoir exprimer ses besoins émotionnels, ses désirs, ses objectifs, ses opinions, ses visions des choses et sa façon de vivre une situation. De là découle alors un terrain d'entente qui servira de base et de repère pour chacun. En effet, pour pouvoir avancer en couple, l'un et l'autre devront partir sur la même base, regarder dans la même direction et avoir le même objectif. Deuxième conseil, c'est de passer du temps ensemble. Il est important, voire primordial, de s'accorder des sorties ensemble et de partager ses passions avec l'être aimé. Ainsi, un couple aura plus de chances de perdurer si chacun raconte sa journée et partage son quotidien avec l'autre. Pour prendre soin de l'autre au quotidien, il faut aussi se faire des compliments, rire ensemble, se raconter les moments heureux, ou pourquoi pas les moments d'humour vécus ensemble, se rappeler les bons souvenirs. Rien de plus concret pour prendre soin de son couple à tous les jours. Troisième conseil, prendre du temps chacun pour soi aussi. S'il est important de passer du temps avec l'être aimé, il faut aussi prendre du temps pour soi, sans l'autre. Ainsi, un couple aura plus de chances de perdurer si chacun passe des moments seuls avec des amis. Cette attitude permet de combattre l'égoïsme, d'éviter de tout recentrer sur soi et ainsi de donner un espace libre à l'autre, de le laisser s'épanouir et respirer. Il est parfois utile dans un couple de s'éloigner, de ne pas surcharger l'autre, tout en gardant une distance saine pour l'un et pour l'autre. Afin que le couple se porte bien, il est nécessaire que chacun soit bien dans sa peau et épanoui. Pour ce faire, il faut s'accorder des moments pour s'occuper de soi. Quatrième conseil, faire des compromis. Plutôt que de chercher à détruire les différences qui, au final, donnent du sel à la relation et la nourrissent au quotidien, pourquoi ne pas tenter plutôt de les apprivoiser? Savoir accepter ses différences et découvrir l'autre comme il est, c'est donner une chance à son couple d'exister et de s'épanouir. Il faut qu'ils apprennent à négocier à partir du même cadre, qu'ils se mettent au moins d'accord sur l'essentiel. Si un couple n'a pas à s'entendre sur tout, il est bon de rappeler qu'il doit néanmoins, parfois, savoir faire front commun. Faire des concessions est parfois utile pour le couple, sans pour autant que cela ne fasse perdre ses valeurs personnelles. Et cinquième conseil, avoir des projets. Avoir des enfants, construire une maison, partir en vacances, même des projets de couple de base peuvent poser problème. En effet, parler de projet de couple, c'est être de plein pied dans le concret. Enfin, en parlant projet commun, les partenaires craignent souvent que cela ne les oblige à renoncer à leurs propres ambitions. Pourtant, pour avancer dans la vie, il faut avoir des projets. Cette vérité vaut non seulement pour l'individu, mais aussi pour le couple, qui a sa dynamique propre. Le couple doit prendre des paris sur son avenir s'il veut renforcer et s'il veut éviter l'ennui, même si cela implique de prendre des risques. Voilà un petit article que j'ai retrouvé sur le site de passeportsanté.net, si ça vous tente d'aller faire une revision, si vous voulez. Alors, on s'en va dans une petite pause.
You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables, tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
Charles Aznavour, formidable.
Voilà, merci beaucoup. Voilà le sixième conseil suite à mon texte. Écoutez de la musique et surtout cette chanson. Très intéressant. Alors, Franceline, on a une brève.
Oui, quelques brèves. Alors, tous ensemble, elle s'intitule « La mixité des générations, nouvelle tendance forte de l'urbanisme ?» Point d'interrogation. En effet, c'est du moins ce que laisse entrevoir la construction d'un complexe multigénérationnel qui s'appelle District Union, un projet novateur de 900 millions de dollars dans le secteur de l'Achenay, à Terrebonne. Reds Immobilier, une division du réseau Sélection, proposera une variété d'habitations répondant aux besoins des familles, des milléniaux et des retraités actifs en quête d'un milieu de vie dynamique. On y trouvera aussi des espaces publics, des parcs, une école primaire, une bibliothèque, des sentiers piétonniers, des pistes cyclables et de ski de fond, un gymnase et des commerces de proximité. Et cela, tout près de la future gare du train de l'Est. Alors, que demander de plus?
Merci beaucoup, Franceline. Roger?
Bon, alors, l'avenir, et ça a l'air, ça va être compliqué, là. 225 kilos. C'est le poids des objets qui pourraient être livrés par un nouveau drone géant, un drone dont le prototype a été dévoilé par l'avionneur Boeing à la mi-janvier. C'est environ le poids d'une motoneige. J'imaginais des motoneiges qui se promènent au-dessus des rues.
Ouais.
C'est des drones. En ce moment, les drones livreurs peuvent transporter des charges maximales de 2,3 kilos.
Ah, quand même! C'est drôle. Oui.
C'est de la science-fiction, mais peut-être que non.
Oui, qui n'est pas si loin que ça, peut-être.
Effectivement, c'est vrai. Eh bien, on s'en va une petite pause et tout de suite après, deuxième partie de l'émission. À tantôt.
Le Fab Four, extrait de l'album Abbey Road, la pièce Because, les Beatles.
Nous étions en pleine conversation. Ah, c'est intéressant en studio quand même. Franceline, deuxième sujet, connecté ou déconnecté?
Oui, c'est bon, ça fait un peu suite au texte de Roger, mais oui. C'est quand même l'éditorial de José Panay-Raymond dans le journal L'Itinéraire du 15 février 2018. Et qui a consacré son numéro au problème justement de la cyberdépendance. Mm-hmm. Alors voilà, cyberdépendants, le sommes-nous tous? Un peu, beaucoup. Si l'addiction au virtuel semble être l'apanage des jeunes, ce mal n'épargne pas non plus les plus vieux, voire même les aînés. Sans vouloir généraliser, parce qu'il y a plus de personnes qu'on ne le pense qui fuient Facebook et compagnie comme la peste, on peut affirmer être devant un phénomène grandissant. Ça se vit au quotidien. Le regard de votre interlocuteur ou le vôtre qui oblique automatiquement vers le téléphone intelligent en réaction au ping de notification. Les automobilistes qui s'intéressent soudain à leur bas du corps à la lumière rouge. Les gens qui s'absentent des personnes devant eux pour discuter avec d'autres cachés derrière leur écran. La connectivité a changé nos rapports avec les autres, pour le meilleur et pour le pire. Loin de démoniser les réseaux sociaux et Internet, nul doute que la techno nous a grandement facilité la vie. Il nous manque une information, on l'a apportée de Google en deux clics. On est passé en mode transmission instantanée, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il fallait se déplacer physiquement ou faire appel à la poste ou au courrier pour envoyer un document. Et ce n'est là que quelques-uns des bienfaits d'Internet, des courriels, textos, tweets et autres réseaux. Autant la connexion au virtuel nous a rassemblés en tant que société, autant l'hyperconnexion nous isole. Tenez, pour illustrer ce propos, j'évoque souvent cette scène vécue lorsque je visitais une ville historique en Floride, il y a quelques années. Une calèche touristique passe devant moi, avec à son bord papa, maman et un petit garçon. Les deux parents ont les yeux rivés sur leur téléphone, tandis que le petit garçon, délaissé et seul, a écouté le caléchier à l'air désolé lui raconter l'histoire des lieux. C'était d'une tristesse. De plus en plus de gens éprouvent de la difficulté à entrer en relation réelle avec l'autre à cause du virtuel. Et cet isolement, c'est bien une caractéristique de la dépendance. Pas très différente d'ailleurs de l'alcool, de la drogue et de toute autre substance, manie ou activité qui gèle et qui fait le vide autour de ses victimes. C'est cette question que notre collègue Laurent Soumy a fouillée en profondeur avec le concours des plus grands spécialistes en cyberdépendance du Québec. En plus d'expliquer ce qu'on entend par cyberdépendance, il explore son impact sur les adolescents d'aujourd'hui. La situation est troublante. Le temps passé à jouer à des jeux vidéo en ligne prive un grand nombre d'accros d'expérimenter la vraie vie. Ce qui est d'autant plus troublant, c'est que l'industrie des jeux vidéo conçoit ses produits pour accrocher les joueurs, pour en faire de véritables junkies du jeu. Rapidité de l'action, couleur, son et enchaînement, tout est pensé pour que les joueurs aient du mal à déposer la manette. À tel point qu'ils oublient jusqu'à leurs besoins les plus primaires. C'est révoltant. Enfin, ce reportage qu'on trouve donc dans le journal L'Itinéraire mène à une question. Puisqu'il faut des années pour évaluer l'impact des écrans sur les jeunes, qu'en sera-t-il des tout-petits-enfants d'aujourd'hui nés avec une technologie qui se développe à la vitesse grand V? Comment le cyber façonnera-t-il des êtres humains de demain? L'avenir nous le dira. Et alors, il y a un petit paragraphe sur les cyberdépendances qui s'intitule « Quand la souffrance croît avec l'usage ». Il y a 400 millénaires, un homme des cavernes est parvenu à domestiquer le feu sans savoir qu'il allait propulser l'évolution de son espèce, sans savoir non plus que l'humanité ferait plus tard un usage inconsidéré de ce nouvel instrument. Dans l'histoire, l'outil ne peut être blâmé pour l'usage qu'on en fait. Il en va ainsi des chercheurs informatiques qui, au début des années 1990, ont entrepris la mise au point fort louable du web. 15 ans plus tard, l'Internet faisait ses premières victimes. à partir de 2005, avec la multiplication des plateformes de nouvelles dépendances virtuelles, jusque-là inconnues, sont aussi apparues. Elles prennent aujourd'hui plusieurs formes, celles dont sont victimes les plus vulnérables, incapables d'assouvir dans la vie réelle leurs besoins émotionnels les plus profonds. Donc l'itinéraire propose une incursion dans cet univers tout en nuances d'une maladie qui n'en est pas une maladie encore considérée comme un trouble des temps modernes. Alors voilà, quelques réflexions sur la cyberdépendance. J'ai peut-être un truc drôle. Les téléphones sont de plus en plus intelligents. Ils permettent d'écouter de la musique, de prendre des photos, de recevoir la radio, d'être guidé par le GPS, d'accéder à Internet, de savoir le temps qu'il fait là où vous n'irez de toute façon jamais, à tel point qu'il sera probablement nécessaire d'avoir un deuxième téléphone pour simplement téléphoner. Voilà, c'est Didier Alpé qui écrit ça, sur un ton un peu d'humour, bien sûr.
C'est vrai qu'on ne téléphone presque plus avec les téléphones.
Ben non, absolument.
On texte à la place.
Là, c'est ça, les pouces sont plus agiles que les oreilles.
C'est quand même incroyable. Je vous reviens avec un petit texte que j'ai retrouvé sur la presse, le blog de la presse, radiographie dentaire. Est-ce qu'on prend trop de rayons X? Alors, papier que j'ai trouvé sur le blog de la presse, un papier de Marie Allard. Et elle dit ce qui suit. À chaque visite chez le dentiste, on a droit à un nettoyage, à un détartrage et à des radiographies naturellement. Bien que les doses de radiation soient faibles, elles s'accumulent au fil des ans. Faut-il abandonner les radios de routine et exiger d'être d'abord examiné par son dentiste? Pas besoin d'enfiler un tablier de plomb pour répondre oui. On dit que près de 14 millions de Canadiens passent une radiographie dentaire chaque année selon Santé Canada. Cela les expose aux rayons X qui peuvent endommager l'ADN des cellules saines et potentiellement induire un cancer. Le risque peut paraître faible puisque la dose de rayonnement reçue chez le dentiste est moins élevée que lors d'autres examens d'imagerie médicale. Du point de vue de la santé publique, toutefois, ce risque est plus important compte tenu du nombre considérable de Canadiens qui passent une radiographie dentaire, lit-on dans un document publié le 15 novembre dans la partie 2 de la Gazette du Canada. Quand on est en bonne santé, les radios dentaires sont souvent la seule source d'irradiation, voilà, médicale, et laquelle on est exposé à moins de se casser un bras ou une jambe. Nombreux sont les clients qui ont l'impression de se faire imposer des radiographies à chaque nettoyage, peu importe l'état de leurs dents. Si un patient refuse une radio, nous lui expliquons que légalement, l'ordre des dentistes nous demande de prendre des rayons X maximum aux années. Et c'est faux. Les radiographies doivent être prises en fonction des besoins, dit Paul Morin, dentiste conseil au service des affaires publiques et communication de l'Ordre des dentistes du Québec. Une autre hygiéniste s'est réjouie sur Facebook qu'à sa clinique, les clients les prennent de routine. Or, la fréquence à laquelle un individu a besoin de radiographie dentaire dépend de son état de santé bucco-dentaire, précise une mise au point de l'ordre. La décision de prendre ou non une radiographie repose essentiellement sur le jugement clinique du dentiste à la suite de l'examen du patient. Elle ne saurait en aucun cas être déterminée à l'avance. Des radiographies tous les ans, c'est trop. C'est clairement une pratique de surutilisation des ressources que l'on a, bien que le dosage reste faible pour les radiographies dentaires standards et il y a des risques liés à l'effet cumulatif des radiations. Si on peut éviter un petit risque, on l'évite, explique Victoria Dudenkova, candidate au doctorat en sciences biomédicales de l'Université de Montréal. Lorsqu'un client change de clinique, son nouveau dentiste devrait tenter d'obtenir ses radios précédentes, plutôt que de demander automatiquement la prise de nouvelles radiographies, selon les lignes directrices de l'Association dentaire canadienne. Mais quel dentiste le fait? C'est aux patients de communiquer avec leur dentiste antérieur pour avoir leur radiographie. Question de confidentialité, plaide Mme Marzaghi. Très souvent, les patients ne veulent pas brimer le dentiste en lui demandant une telle requête, car au fond, ils changent de dentiste. Et c'est gênant. Ça prend du temps et ça ne permet d'épargner qu'une faible dose de radiation. Maintenant, quelles sont les doses de radiation? Au Québec, le Centre d'expertise clinique en radioprotection, le CECR, ne possède pas de données sur les doses délivrées dans les cliniques dentaires, indique Moulay Ali Nassiri, physicien médical au CECR et professeur au département de médecine nucléaire et radiologique de l'Université de Sherbrooke. C'est un dossier qui n'est pas, pour le moment, dans le mandat du CECR, ajoute-t-il. Cela ne veut pas dire que personne ne veille au grain. Santé Canada a publié, l'automne dernier, des modifications au règlement sur les dispositifs émettant des radiations, dans la Gazette du Canada. Ces modifications actualisent la réglementation canadienne concernant les appareils de radiographie dentaire pour tenir compte des nouvelles technologies offertes sur le marché, explique André Gagnon, agent des relations avec les médias à Santé Canada. Il dit une augmentation dans la protection offerte aux patients et aux opérateurs en résultera. Ces modifications entreront en vigueur le 15 mai prochain. Alors, droit de refus? Bien, un patient a évidemment le droit de s'opposer à toute radio. Cependant, si le dentiste juge qu'il, lui, il est essentiel d'obtenir une radiographie, il pourra alors refuser de traiter le patient ou d'effectuer un traitement en particulier, souligne l'Ordre des dentistes du Québec sur son site Internet. Ce n'est pas le cas de Marc-Antoine Anger, qui passe lui aussi des radiographies biannuelles et songe à les espacer davantage. Il dit « J'ai 40 ans et j'ai eu 2 ou 3 caries dans ma vie », calcule-t-il. « Je n'ai plus de dents de sagesse, mes dents ne bougent plus, donc m'offrir des radiographies chaque année, ce n'est vraiment pas justifiable ». Alors voilà, est-ce qu'on en passe trop? Oui, on dit dans cet article qu'on en passe peut-être trop. Une fois par année, c'est beaucoup trop. Alors on verra, peut-être le dentiste pourrait faire un examen avant. C'est à peu près ce qu'on dit dans cet article. Alors si vous voulez l'avoir, c'est sur le blog de la presse, édition du mois de février. Voilà. Alors, Roger, deuxième sujet.
Oui, c'est Jean Bédard qui signe ce texte « Nous sommes tous pauvres ». C'est dans la revue Relations, édition du mois de février. Dans quelle pauvreté absolue apparaît l'espèce humaine à voir sa machine économique terriblement violente fonctionner sans véritable contrôle? Dressée au-dessus de nos têtes, elle n'est pourtant que le reflet des passions humaines les plus folles. Sa froideur apparente cache une cupidité viscérale, sa rationalité de façade masque une recherche maladive de profit. Les banques et les grandes entreprises obéissent comme des pièces d'engrenage. Elles doivent faire plus de profit que les autres ou elles seront achetées par celles qui n'auront eu aucun scrupule. Elles doivent survivre dans un univers où les plus gros, les plus puissants avalent les plus petits, les plus faibles. Peuvent-elles se permettre un peu d'éthique? Les PDG ne sont finalement que d'habiles joueurs d'échecs enchaînés à un jeu théoriquement amoral mais en pratique immoral. Et tant pis pour les dégâts. Chacun d'entre nous, dans son train-train quotidien, autant que dans sa bonne volonté, se sent affreusement pauvre, dépourvu, impuissant face à ce monde inventé que personne ne contrôle vraiment. Nos gouvernements gèrent du mieux qu'ils peuvent un budget à crédit, c'est-à-dire à la merci de l'immense machine financière. On les voit se débattre, mais peuvent-ils nous sortir de là? Personne ne le croit. Comment en sommes-nous arrivés là? Nous ressemblons à une araignée tout à coup prise dans sa propre toile. Lorsqu'on regarde l'histoire, c'est comme si nous avions rêvé. Rêvé qu'un jour nous allions être indépendants de la nature, et plus généralement encore, que les conséquences de nos actions ne nous affecteraient pas. Jeter nos égouts dans l'environnement et continuer à boire de l'eau potable au robinet. Brûler à ciel ouvert toutes les énergies fossiles de la Terre et respirer de l'air pur. Exploiter des populations loin de nous jusqu'à leur extrême pauvreté et jouir de la paix sociale dans notre petit pays à part, l'American Way of Life, et tant pis pour le reste. Quel rêve avons-nous fait? Le même que celui de la famille californienne qui se construit une villa à l'écart dans les montagnes avec le sentiment que plus la maison sera luxueuse, plus elle sera à l'abri jusqu'au jour des grands feux. On a tout fait pour nourrir l'illusion de notre indépendance vis-à-vis de la nature. Nous avons pour cela érigé notre machine industrielle qui est devenue une machine financière incontrôlable. Mais maintenant, nous sommes tous dépendants d'elle, autant que l'homme de Néandertal dépendait jadis de la nature. Nous ne voulons pas nous reconnaître comme pauvres. Nous le sommes tous, mais nous ne le savons pas encore. Lorsqu'on a perdu tous les biens qui nous donnent l'illusion d'être indépendants de la nature et du reste du monde, on est pauvre. Par exemple, si vous êtes dans une belle voiture et que vous filez à vive allure sur l'autoroute entre Montréal et Québec en écoutant les plus beaux concerts du monde, vous n'êtes pas pauvre. Mais soudain, un pneu éclate, vous perdez le contrôle, vous vous retrouvez dans le fossé au milieu de la nuit, les deux jambes écrasées sur le tableau de bord, votre portable en miettes. Vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre parce que vous savez maintenant que vous dépendez de la température et du reste du monde. N'est-ce pas ce qui est en train de se passer? Un accident climatique, politique et économique qui nous ramène à notre pauvreté originelle. Oui, nous sommes totalement dépendants de la nature, malgré la machine industrielle et financière qui nous fait croire le contraire, qui la détruit et, ce faisant, nous détruit. Nous sommes tous pauvres parce que nous sommes tous mortels, dépendants et fragiles. Mais pour le moment, nous sommes peut-être des pauvres qui ne savent pas qu'ils le sont, des pauvres avec de beaux vêtements, de beaux logements, de belles voitures, des pauvres qui ont l'illusion d'une autonomie totale, mais qui paient cette illusion au prix de la santé même de la terre qui nous fait vivre. Aussi, lorsque nous rencontrons un pauvre dans la rue, sa seule présence nous rappelle notre vulnérabilité originelle, et cela n'est pas agréable du tout. Nous avons tendance à combattre les pauvres plutôt que la pauvreté, parce que les pauvres nous rappellent notre fragilité humaine, notre dépendance vis-à-vis de l'air, de l'eau, de la nourriture, de la solidarité, de l'éducation. Pourtant, il nous faudrait oser dire « Bienheureux les pauvres, par eux, les aveugles que nous sommes peuvent retrouver la vue. Et de notre vue jaillit notre puissance. Lorsque nous arriverons à voir notre pauvreté, nous cesserons notre docilité séculaire vis-à-vis de la machine capitaliste et pourrons commencer une nouvelle manière de vivre, de faire société, celle qui accepte notre dépendance vis-à-vis de la nature. Seule notre solidarité peut arrêter la machine financière qui nous broie. Une solidarité à échelle internationale qui permette une délibération planétaire sur la production et la consommation. Mais pour qu'une telle solidarité se réalise, une prise de conscience est d'abord nécessaire. Il nous faut assumer les conséquences de nos choix, de chacun de nos choix quotidiens, parce que nous sommes tous pauvres, fragiles, dépendants de l'air, de l'eau, de la terre et des océans qui nous nourrissent et nous soutiennent. Le point de vue d'un philosophe et d'un écrivain qui s'appelle Jean Bédard. Il publie son texte dans la revue Relations.
Voilà.
Je vais y arriver.
On en lit plusieurs.
Et c'était au mois de février que ça a été publié.
2018, naturellement.
C'est ça. Oui. Merci de le rappeler.
On vous revient dans quelques instants avec un autre article que Francine va nous lire. Alors, Franceline, article retrouvé dans Le Bel Âge.
Oui, c'est ça. Je vous reviens avec un article retrouvé dans la revue Le Bel Âge de février 2018 qui s'intitule « Votre union de fait aux yeux du fisc ». En effet, février, c'est le mois de l'amour, hein, avec la Saint-Valentin, mais c'est aussi le mois de préparation de déclaration de revenus. Alors, vous avez rencontré le conjoint idéal au cours des dernières années tout en déclarant un statut de personne vivant seule. C'est notamment le cas d'une lectrice, dit l'article, Nicole, qui s'interrogeait à ce sujet. Doit-on déclarer cette union au fisc? Quels sont les avantages et les inconvénients? Est-on moins à risque si on ne partage aucun compte bancaire ou prêt hypothécaire? Qu'arrivera-t-il au décès? Toutes ces questions sont légitimes et méritent une attention particulière. Alors, Josée Geffray, qui est fiscaliste et planificatrice financière, élabore cet article. Alors, Nicole vit avec son conjoint de fait depuis 11 ans. Ils n'ont jamais déclaré cette situation dans leur déclaration de revenus, car celui-ci gagne des revenus élevés et Nicole craint donc de se faire réduire sa pension de la sécurité de la vieillesse. Selon la loi de l'impôt sur le revenu, on est tenu de déclarer sa situation de conjoint de fait après 12 mois de vie maritale ou dès qu'un enfant naît d'une union où en devient la charge entière. Si on se manifeste publiquement comme un couple et qu'on fait plein d'activités de toutes sortes ensemble depuis au moins 12 mois consécutifs, on est des conjoints de fait aux yeux du fisc. Même si on ne partage pas le prêt hypothécaire de son conjoint, plusieurs pistes peuvent servir d'indice au fisc. La même adresse allume déjà une lumière rouge. Les comptes de dépenses publiques, le chauffage, le téléphone, le câble, sans compter les protections familiales des assurances collectives, sont des sources d'informations susceptibles de trahir la situation. Plusieurs calculs pour l'admissibilité à des programmes sociaux ou à la prime du RAMQ sont établis en fonction du revenu net familial. Certes, en déclarant son union de fait, on perdra certains crédits d'impôt, probablement les crédits pour la TPS, pour solidarité ou pour le maintien à domicile. Mais au bout du compte, le conjoint avec des revenus plus élevés pourra gagner à cette déclaration obligatoire aux yeux du fisc. Celui aux revenus plus modestes peut lui transférer des crédits d'impôt inutilisés, sans compter qu'il peut fractionner son revenu de pension avec lui. Plus les écarts de revenus sont importants, plus l'économie fiscale est bénéfique. Et la récupération d'impôt de la pension du fédéral pour des revenus excédentaires à 74 788 $ pour l'année 2017 est basée sur le revenu individuel du particulier. La perte des avantages fiscaux s'avère plus importante lorsque des enfants de moins de 18 ans font partie de la nouvelle union, alors avec les allocations pour enfants ou montants pour personnes à charge admissibles au fédéral. Il ne faut donc pas tarder à remplir les formulaires requis pour déclarer la nouvelle union, afin d'éviter d'avoir à rembourser des sommes importantes aux deux paliers de gouvernement. Par ailleurs, en cas de décès, une prestation de conjoint survivant de la RRQ est versée au conjoint de fait après 3 années de vie commune. Plusieurs stratégies viennent aussi réduire les impôts, tels le roulement automatique au décès, le CELI, les REER, voilà, je cherchais comment ça se disait, et la réversibilité de la rente viagère d'un régime de retraite. Mieux vaut donc y voir avant que le fisc nous demande de rembourser certaines sommes reçues durant les 3 années précédentes. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc voilà, à faire peut-être réflexion si vous êtes conjoint de fait. C'est un article écrit par Josée Geffray, qui est fiscaliste et planificatrice financière indépendante.
Merci beaucoup, Franceline. Et moi, j'ai trouvé un petit article dans le Reader's Digest. On dit que des médicaments contre le diabète et l'ostéoporose, on dit que ça peut causer des problèmes aux os aussi. Donc, les diabétiques qui souffrent souvent d'ostéoporose, car le diabète de type 2 affecte le métabolisme osseux, imaginez. Et il y a quelques médicaments, entre autres la metformine qu'on utilise, et on dit que ces molécules qui sont très efficaces contre le diabète, mais également a des effets très bénéfiques pour les os. Alors, ceux qui ont le diabète de type 2, demandez à votre médecin d'avoir de la metformine, peut-être. Et Roger?
Oui, une dernière brève. Aliments sous pression, mangeriez-vous du bœuf haché qui traîne dans votre frigo depuis 2 mois? S'il a subi le traitement par haute pression hydrostatique, HPP, vous pouvez le faire sans crainte. Cette méthode de conservation, lancée par le Centre de développement bioalimentaire du Québec et Recycle Québec, vise à contrer le gaspillage. Le traitement consiste à plonger les aliments emballés dans l'eau froide et à les soumettre à des pressions 6 fois supérieures à celles mesurées dans les profondeurs des océans. Ils perdent ainsi la quasi-totalité de leurs bactéries, mais conservent leurs valeurs nutritives, explique Charles Laving, directeur du CDBQ. Seule la société naturelle HPP à Saint-Hyacinthe offre cette technologie aux producteurs québécois.
Merci beaucoup, Roger. Merci à vous deux pour cette magnifique émission. Merci à Jean-Sébastien de l'autre côté de la vitre. Je vous rappelle, restez à l'antenne parce qu'il y a l'émission Le quotidien des quotidiens qui s'en vient avec Hélène Denis. Bonne semaine à vous.